Alors, pour terminer notre journée, et de belle manière d'ailleurs, nous allons nous pencher sur une personnalité complexe, attachante, et je dois vous avouer qu'au comité scientifique, il était compliqué de savoir où le mettre parce qu'il aurait pu aller partout. Et d'ailleurs, on en a déjà à plusieurs reprises fait mention, c'est évidemment de cette personnalité assez attachante qu'est Romain Rolland. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Claire Basquin, chartiste, et également conservateur des bibliothèques, qui a en parallèle suivi des études en littérature française des 19e et 20e siècles à la Sorbonne, qui est l'une des meilleures connaisseuses actuelles de Romain Rolland, notamment avec sa thèse qu'elle a faite à l'école des chartes sur Romain Rolland et l'agence des prisonniers de guerre de Genève, à ma connaissance le seul travail sur cette question d'ailleurs spécifique. Et parmi les nombreux travaux qu'elle poursuit sur Romain Rolland, je voudrais signaler cette édition scientifique qui est en cours au classique Garnier. Vous savez peut-être que les œuvres de Romain Rolland ont bénéficié d'une publication complète, des œuvres complètes. Et Claire Basquin est en charge du volume des romans de guerre, de cette période de guerre, 1913-1920. Donc on se réjouit d'autant plus de vous écouter sur cette personnalité.
Voilà, je vous remercie. Donc, bonsoir à tous. Je suis très heureuse et très honorée de pouvoir participer à cet hommage, de répondre à cette invitation. J'étais venue une première fois il y a, je crois, 20 ans exactement pour travailler à ma thèse et c'est un bel anniversaire d'être là à nouveau aujourd'hui. Comme il a été dit, j'ai consacré ma thèse d'école des chartes à Romain Rolland et l'agence des prisonniers. Et c'est donc en grande partie sur ce travail que je vais vous présenter ma communication d'aujourd'hui. Le travail de Romain Rolland à l'agence des prisonniers de Genève a été très court, donc quelques mois seulement, mais pour lui capital, car c'est justement durant cette période où Romain Rolland a travaillé à l'agence des prisonniers de Genève qu'il a pris une aura internationale en devenant, bien malgré lui, j'ai envie de dire, le porte-parole des mouvements pacifistes, puisque c'est à ce moment-là qu'il va prendre une figure publique, ce qui n'était pas du tout le cas de l'homme de lettres avant le premier conflit mondial. La question des rapports entre les deux est d'autant plus intéressante que le fait a déjà été signalé, les deux figures ont été attributaires d'un prix Nobel au cours du conflit, ce qui n'était pas en plus très courant durant ce conflit. J'y reviendrai tout à l'heure. Mon intervention va donc porter sur les trois points suivants, donc au cœur de la mêlée tout d'abord, une deuxième partie qui s'intitule « Au-dessus de la haine » et la troisième partie donc sur la rencontre de deux prix Nobel. Donc, au cœur de la mêlée, tout d'abord. Je fais bien sûr ici référence au célèbre texte « Au-dessus de la mêlée » qui donc a valu à son auteur la notoriété que l'on sait. J'en livre ici les premières lignes car le texte est souvent méconnu. Ce que Romain Rolland a dit dans ce texte-là, ce qui a beaucoup choqué l'opinion, c'est essentiellement qu'il s'est adressé, comme vous le voyez, donc aux jeunesses héroïques du monde, comme vous m'êtes chers, vous qui allez mourir. Il s'adresse sur un même plan aux soldats de toutes les nations en guerre, que ce soit les Français, pour qui il a malgré tout une préférence, les Anglais, le peuple belge, les Slaves, etc. Donc son message est juste un salut, un hommage à ces soldats de toutes les nations, et c'est ça qui demande faire de lui un petit peu ce porte-parole. Dans ce texte-là, il s'adresse également et surtout aux autorités morales qu'il croyait garantes de la paix, les syndicats, les églises, les mouvements pacifistes, etc., à qui il reproche de n'avoir su arrêter le conflit. Ce texte-là parlait très tôt, je crois qu'on en a déjà parlé, dès le 22-23 septembre dans le journal de Genève. Il lance donc une parole libre, l'invention de la dissidence, comme a pu le dire Christophe Prochasson. Et d'un autre côté, il entraîne également des critiques virulentes contre son auteur. Rien pourtant ne semblait prédisposer Romain Rolland à ce rôle inédit qu'il allait jouer durant la guerre. Donc je vous rappelle très brièvement, pour situer le personnage, qui est Romain Rolland en 1914. Donc je livre une très belle photographie de Fred Boissonnas, qui est conservée ici à Genève, qui date de 1915. Donc comme vous le voyez, Romain Rolland, à l'époque, il a 48 ans. Donc il n'est plus mobilisable, le fait est important, puisque ce sera un reproche qu'on lui fera de n'avoir pas combattu. Mais en raison de son âge et de plus d'un accident qui lui a laissé une santé fragile, il n'est plus mobilisable. Il a atteint à ce moment-là de sa carrière une notoriété assez importante dans le monde des lettres, avec bien sûr Jean-Christophe, qui est apparu dans la décennie d'avant-guerre, et qui juste avant la guerre, a été traduit dans plusieurs langues étrangères, donc en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. C'est quand même une personnalité du monde des lettres. Et par ailleurs, un autre point qui a pu poser polémique, Romain Rolland, au moment de la guerre, est en Suisse, mais c'était un fait coutumier pour celui-ci qui aimait beaucoup la Suisse, donc il aurait beaucoup à dire bien sûr sur ce sujet. Et comme chaque année, en fait, il passait ses vacances tout simplement en Suisse, et c'est là où la déclaration de guerre l'a surpris. Donc au moment de la parution, au moment pardon, de la déclaration de guerre, donc il se trouve à Vevey et très vite, comme vous le voyez, comme on témoigne de son journal, il s'installe à Genève pour s'employer au service de la Croix-Rouge internationale. Octobre 1914, c'est la première mention dans le journal. En réalité, il a commencé dès le 24 septembre à travailler à la Croix-Rouge en faisant l'aller-retour depuis Vevey probablement. Ce qui en termes de date est très intéressant puisqu'on voit que c'est quasi concomitant à l'apparition du texte au-dessus de la mêlée. C'est vraiment un engagement parallèle mais qui se fait en même temps que ces articles. Donc début octobre, il déménage, si je puis dire, pour s'installer donc à Genève à l'hôtel Beau Séjour où il se met au service de la Croix-Rouge internationale. Et son travail à l'agence sera du moins durant les premiers mois de la guerre. Une des raisons qui le pousse à rester en Suisse, donc il en témoigne très clairement, très explicitement, dans de nombreux extraits de sa correspondance, et c'est donc une des raisons, en tout cas au début, qui justifie qu'il ne rentre pas à Paris comme il aurait pu faire, mais qu'il demeure en Suisse, où finalement il demeurera durant tout le conflit. Donc vous avez ici aussi également la photo du Misérat où était installée l'agence. Les raisons de Rolland à collaborer à la Croix-Rouge internationale sont multiples. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais donc, tout d'abord, alors que d'autres combattent, il s'agit pour lui de prendre une place concrète dans la guerre qui vient d'être déclarée. Il n'est pas mobilisable et il s'engage ainsi à sa façon dans la mêlée, ressemblant cela à bien d'autres écrivains qui, eux aussi, ont pu, durant la guerre, s'employer à un travail de bureau. Ensuite, le choix du service n'est pas innocent. Donc il travaille au service des civils, on a eu l'occasion d'en parler. Donc le fait de travailler au service des civils, c'est un choix. Ce n'est pas les prisonniers, les soldats, mais bien les civils qu'il veut, si je puis dire, servir. Ceci étant les victimes les plus à plaindre du conflit, ainsi qu'il en témoigne dans de nombreux extraits du journal ou dans sa correspondance. D'autant plus que, alors on l'a dit aussi, rien n'a été prévu pour eux, puisque à cette époque-là, aucune convention de Genève ne protégeait les civils. Donc on trouve également de nombreux extraits sur le travail admirable du docteur Ferrière. Donc je n'y reviens pas, mais il loue vraiment le travail remarquable qui est fait. Les deux photos également ont déjà été présentées tout à l'heure, donc la photo du docteur Ferrière et Romain Rolland travaillant au sein du service des civils. Son travail donc se veut concret, utile. Ce terme même revient régulièrement dans sa correspondance quand il évoque son emploi à l'agence. Donc j'en cite ici deux exemples dans des lettres à Jean-Richard Bloch. Je ne pourrais trouver à me rendre plus utile en France ni d'une façon qui réponde davantage à mon cœur. Et dans une lettre quelques jours plus tard, je ne pourrais trouver un emploi plus utile de mon activité ni plus approprié à mes pensées. Voulant se rendre utile, qui mieux que la Croix-Rouge internationale peut sembler à Romain Rolland au cœur de la mêlée. En s'engageant auprès de la Croix-Rouge, Rolland se sent en effet au cœur ou du moins en relation directe avec les souffrances de la guerre. Son travail au service des civils, je passe rapidement parce qu'on en a un petit peu parlé, donc c'est de travailler à la constitution de ce fameux fichier que le camp pourra voir demain. Donc il lit les lettres envoyées par les familles pour demander des renseignements au sujet des familles, des personnes disparues. Il leur donne les réponses nécessaires, il remplit donc les fiches du fichier central de l'agence et transmet les lettres de prisonniers à leurs familles. Donc j'ai donné ici un seul exemple qui est la fiche qu'il a faite pour l'écrivain français Henri-Alain Fournier, qui est l'auteur du Grand Mône, et pour qui il a mené des recherches à la demande de plusieurs écrivains français, Jacques Copon, André Gide, etc. C'est l'une des nombreuses recherches personnelles, si je puis dire, qu'il a pu mener, mais je sais qu'on trouve, je crois, d'autres fiches de sa main au fichier. Il se sent donc ainsi par ce travail en lien direct avec les souffrances des familles, pour lesquels il montre dans sa correspondance ou son journal une empathie sincère. Et il faut quand même le dire, myopathie d'autant plus marquée s'il s'agit malgré tout de familles françaises, même s'il est touché par toutes les souffrances. Je cite là également un extrait où on voit qu'il a été très, très touché, très heureux de pouvoir rendre service à une famille française et d'autant plus nivernaise, de sa région natale. Bien plus encore, de par son œuvre et de sa présence en Suisse, il se sent bien mieux informé des réalités de la guerre que ne serait un combattant ou un de ses homologues intellectuels demeuré en France. Car son travail à l'agence lui permet aussi de se tenir informé des réalités de la guerre et d'en donner témoignage. Son emploi au sein de la Croix-Rouge lui permet d'avoir accès à bien des sources inédites. Lettres lues à l'agence, récits de visiteurs, discussions avec le docteur Ferrière, qui lui permet parfois la lecture de rapports confidentiels. Tout cela forme un matériau unique dont Roland a bien conscience. Il s'en sert dans ses articles, il reprend souvent des choses qu'il a pu voir ou entendre, et surtout il consigne tout cela dans ce qui deviendra le journal des années de guerre, qui paraîtra bien des années après, mais qui a été conçu dès le conflit comme une volumineuse somme de documents d'histoire, de documents moraux, comme il le dit, pour servir, alors là aussi je cite le sous-titre car il est important, pour servir à l'histoire morale de l'Europe de ce temps. Donc là aussi ça permet un petit peu de positionner la pensée de Romain Roland, histoire morale, documents moraux, hein, comme on le voit dans cette et l'ami, car il voit aussi, bien sûr, en la Croix-Rouge, une force morale. Le terme est important. Son travail au sein de l'agence lui permet notamment de répondre aux attaques dont il est l'objet. Il est très violemment attaqué pour ses différents écrits. On le traite de déserteur, de traître à sa patrie, de germanophile. Et on voit très vite que le fait d'avoir pu travailler à l'agence lui permet de donner une réponse qui a son poids face aux attaques. Donc j'ai donné ici par exemple un exemple où il répond à un agent diplomatique, enfin peu importe qui est la personne, qui l'a accusé comme d'autres. Et dans sa réponse, il se réclame, comme vous le voyez, de son travail à l'agence. Je pense, monsieur, que si vous aviez connu l'œuvre que nous faisons ici, si vous aviez pu voir nos travaux. Alors là aussi, l'expression est intéressante, donc pour tâcher d'adoucir les horaires de la guerre, j'y reviendrai, vous seriez confus de m'avoir attaqué, etc. Je note aussi qu'il utilise le terme « nous », donc c'est moi qui souligne, se réclamant ainsi d'autant plus de son travail à l'agence pour se mettre sous la protection en fait, des auspices de la Croix-Rouge internationale et donner du poids à son action. Donc il se réclame bien volontiers aussi de tout ce qu'il peut voir et entendre dans les lettres à ses correspondants, et il peut dire à sa mère concernant son travail à l'agence « Je sens combien ma situation à l'agence des prisonniers me donne de force morale et de poids à ce que j'écris, je ne pouvais trouver un meilleur emploi. » Alors, concernant justement les articles, le sens un petit peu de son message ou de ce qu'il peut développer dans ses écrits, ma seconde partie s'intitule « Au-dessus de la haine ». Alors, Monsieur Bunion, tout à l'heure, a parlé aussi d'un combat contre la haine dans vos extraits. Alors, je rappelle que le titre « Au-dessus de la haine » était le titre primitif qu'avait voulu Romain Roland, alors pas pour le premier article « Au-dessus de la mêlée », mais pour le recueil qui est paru un an plus tard, en novembre 1915, qui rassemblait tous ses premiers articles de guerre. Son combat, j'y reviendrai, n'était pas tant contre la guerre que contre la haine. C'est un point qui est extrêmement important et qui fait qu'il faut aussi pondérer peut-être le terme de pacifisme qu'on accorde bien volontiers à Romain Roland. Alors concernant cette volonté de se tenir au-dessus de la haine, en quoi son emploi à la Croix-Rouge a pu ou non répondre à ses attentes? Tout d'abord, bien sûr, un des points qui correspond au souhait de Romain Roland est de lui permettre un engagement universaliste. Alors là, je n'insiste pas, les faits sont évidents, mais il s'agit bien sûr d'une agence internationale des prisonniers de guerre sous les auspices de la Croix-Rouge internationale. C'est pour lui fondamental. Il évoque ce souhait dès le tout début de la guerre, dès le 11 août, dans une lettre à sa sœur, donc bien avant de s'engager à la Croix-Rouge, où il évoque, ne sachant pas trop ce qu'il allait faire, sa volonté de donner des soins à des blessés ou des malheureux, français et allemands, indistinctement. Disant que cela correspond à ses souhaits de sentiment de pitié profonde pour tous les soldats de toutes les nations, sans aucune distinction. Donc ce fait est vraiment important dans la pensée de Romain Roland. L'autre aspect aussi, qui je pense était sincère, c'est la volonté d'avoir aussi une action, un message de charité, qui là aussi fait écho évidemment à la Croix-Rouge internationale. Alors, il peut se montrer critique, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais il a pour la plupart des gens qui travaillent une réelle admiration en fait pour ces hommes qui se dévouent, surtout ceux qui travaillent, j'allais dire, de façon anonyme, qu'il appelle souvent, le terme revient, hommes et femmes de bonne volonté, avec ce terme un petit peu biblique qui revient régulièrement. Il a beaucoup d'admiration pour le bon docteur Ferrière, ainsi qu'il l'appelle, donc il aurait beaucoup à dire, mais je ne développe pas ici. Ils vont nouer ensemble une amitié réciproque qui durera au-delà de ce travail. Je note simplement, parce que je pense que c'est important, que c'est sans doute par la sympathie réelle qu'il a pour le docteur Ferrière qu'il va rester aussi longtemps, si je puis dire, auprès de la Croix-Rouge internationale. Je pense que sinon il aurait peut-être cessé plus tôt, en raison de déceptions sur lesquelles je reviendrai. Mais le docteur Ferrière l'encourage à rester et à travailler au sein de la Croix-Rouge. Il a donc à cœur de faire connaître son action par donc l'un de ses articles de guerre qui s'intitule Inter Arma Caritas, donc qui reprend la devise de la Croix-Rouge internationale, où il rend hommage justement à ce travail de fourmi de tous ses collaborateurs, du docteur Ferrière, etc. Et où il loue aussi le nom de Genève, à qui il veut rendre hommage, disant que voilà, la Genève et la Suisse ont une mission importante concernant la charité. J'arrive là sur ce qui est peut-être l'aspect central de son message, donc c'était cité aussi tout à l'heure, et également dans cette lettre-là, adoucir un peu les conditions de cette guerre. Donc comme je le disais, Roland n'a jamais souhaité la fin des combats. Je ne sais plus si c'est... Oui, c'est sa mère. Donc dans une lettre à sa mère, je ne combats pas la guerre. Ce serait même injuste si elle devait cesser aujourd'hui, je combats la haine. Donc ça, c'est vraiment le message fondamental qui délivre. Et voulant combattre la haine, il le fait de deux manières, donc deux missions parallèles. Celle de ses articles qui est bien connue, c'est de ses articles qui parlent dans la lettre à sa sœur. Je continuerai de m'appliquer à atténuer la haine et à rendre cette guerre moins âpre en n'exprimant jamais que des sentiments humains. Et la lettre au-dessus fait référence à ce même combat, mais par le biais de la Croix-Rouge. Vous savez combien je voudrais contribuer à adoucir les conditions de cette guerre. Cette mission qu'il se donne à lui-même, il la donne également à tous les intellectuels de tout pays, là encore, qui pour lui avaient également cette mission d'atténuer la haine. Je crois que ça fait écho aussi à ce que disait M. Bunon tout à l'heure, pour préparer, au moins préparer la paix future, la réconciliation européenne à venir, qui lui est très importante. Donc, je cite là aussi un extrait de Inter Arma Caritas, que ce soit notre office à nous qui écrivons, et tandis que le rocher de la Croix-Rouge fait son miel au milieu du combat, tâchons de le seconder. Alors justement, durant son travail à l'agence, Roland cherche à mettre son réseau d'amitié littéraire au service de la Croix-Rouge internationale. Il crée une sorte de réseau parallèle, au fait, par le biais de tous ses amis, en mettant en place un système de recherche croisée. Alors on a parlé aussi tout à l'heure de réciprocité. Donc Romain Roland est aussi très attaché à cela. Donc quand des amis, dont j'ai donné l'exemple d'Alain Fournier tout à l'heure, lui écrivent au sujet d'un soldat français qu'il essaye de retrouver donc en Allemagne, systématiquement il demande à des amis français de retrouver un soldat allemand en France. Donc il joue comme ça ce jeu de réciprocité, pour reprendre ce terme. Je pense qu'il le voyait comme ça aussi. Je n'ai donné ici que quelques noms, il y en a vraiment beaucoup plus, témoignant de ses recherches croisées et de tous ses amis plus ou moins proches qu'il met en contact pour réussir à retrouver comme ça la trace de prisonniers disparus. Il y a le frère d'Henri Matisse, il y a donc Henri Alain Fournier, enfin, il y a beaucoup de gens qu'il parvient à retrouver, en tout cas à donner trace et à dire aux familles, voilà, il est dans tel camp de prisonniers, etc. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ses recherches personnelles obtiennent des résultats puisqu'il parvient à retrouver des adresses de soldats dans les camps prisonniers, ce qui l'encourage à vouloir faire profiter la Croix-Rouge de ce réseau, ce qui, d'après ses écrits, alors je n'ai pas d'écho du côté de la Croix-Rouge, comment cela a été pris, mais en tout cas, on a l'impression que, bien évidemment, la Croix-Rouge n'a pas forcément souhaité utiliser ce réseau parallèle, si je puis dire. Ce fait témoigne des premières dissensions qui vont apparaître très très vite entre Romain Roland et la Croix-Rouge internationale, Je pense que c'est assez révélateur de la place que, sans doute, il pensait, mais en toute bonne foi, en partie. Il y a aussi une question d'ego, bien évidemment. Les deux sont à prendre en compte. En s'engageant auprès de la Croix-Rouge internationale. Donc il a déjà à ce moment-là une grande notoriété et il pensait que le comité directeur, lui, demanderait sans doute de collaborer à des choses plus importantes. Donc il le dit très vite, là encore dans une lettre intime, une lettre à sa sœur, à quoi m'occupe-t-on à l'agence, à un détruiment de correspondance banale et à des réponses impersonnelles que n'importe quel petit employé pourrait faire. Ils se gardent bien de m'introduire dans leur sanctuaire et pourtant je pourrais, avec mon nom, mon activité, mes relations, leur rendre de grands services. Alors il y a d'autres cas de dissension avec la Croix-Rouge. Donc là il y a un extrait aussi que j'aime beaucoup. Donc il trouve un jour un écriteau qui rappelle le règlement. Donc il voit cet écriteau et il note. Un écriteau nouveau qui interdit à tous de signer aucune lettre et d'y introduire aucun mot personnel, ce que je fais constamment. Donc pour avoir effectivement consulté la correspondance originale, j'allais dire, à la Bibliothèque nationale de France, il est certain que Romain Rolland signait systématiquement le courrier qu'il envoyait, y compris le courrier qu'il écrivait sur du papier à l'entête de l'agence. J'en ai mis un à fond d'écran, on ne le voit pas très bien, en fait, mais vous voyez là que c'est le papier à l'entête de l'agence qu'il emploie pour son courrier personnel. Ce courrier-là date d'avril 1916. À l'époque, certaine qu'il n'est plus en service, vraiment, en tout cas régulièrement, au sein de la Croix-Rouge. Il emploie encore le papier. Et l'adresse qu'il donne est son adresse personnelle, hôtel au séjour à Champelle. Et donc, c'est très systématique. Je ne développe pas, il y a beaucoup d'exemples où il va employer le papier en tête de la Croix-Rouge pour une correspondance privée et vice-versa. Écrire sur le papier en tête de l'hôtel, mais donner son adresse à la Croix-Rouge. Il y a une confusion des genres qui, effectivement, peut s'avérer assez problématique, y compris sur la diffusion qu'il donne à des rapports. Je ne développe pas, pour ne pas prendre plus de temps, mais on peut y revenir si vous le souhaitez. J'en donne ici un exemple, mais il est certain qu'il racontait à ses correspondants dans des lettres qui pour lui étaient privées, mais qui pouvaient être lues par la censure militaire, bien des choses qu'il voyait dans des rapports. Donc toutes ces distorsions expliquent que très vite, Romain Rolland cesse son activité à la Croix-Rouge, donc très vraisemblablement à la fin de l'année 1915, et il a sans doute un petit peu encore collaboré au début de l'année 1916, mais très brièvement. Le gros de l'activité, c'est l'été 1915, des petites collaborations jusqu'à la fin de l'année, mais il cesse quand même très vite. Donc pour dire quelques mots ensuite très rapidement sur la rencontre des deux prix Nobel, donc je ne reviens pas parce que la dernière demain en a parlé ce matin, donc a cité les motifs d'attribution des deux prix Nobel. Donc je les ai remis ici, donc le comité de la Croix-Rouge, prix Nobel de la paix en décembre 1917. Et effectivement, un an auparavant, Romain Rolland, quant à lui, a été attributaire du prix Nobel de littérature pour l'année 1915. Il n'y a pas eu de prix en 1915 en raison de la guerre. La raison de l'obtention du prix, en hommage de l'idéalisme élevé de sa production littéraire, ainsi que de l'exactitude empreinte de sympathie avec laquelle il a su prendre les divers types humains. Alors, je reviens très rapidement sur la question de la notoriété de Romain Rolland et de sa figure d'homme de lettres au moment de son travail auprès de la Croix-Rouge, pour citer en entier un extrait que j'ai montré rapidement tout à l'heure, qui est la première réponse de Gustave Adore au moment où il lui écrit qu'il veut travailler à la Croix-Rouge. Donc, il y a 15 jours, j'ai écrit au président de la Croix-Rouge, Gustave Adore, pour lui demander de m'utiliser. Il m'a répondu, en me remerciant, qu'il se ferait scrupule de recourir à mon concours, estimant que je rends par mes articles des services plus importants à la cause du libéralisme et au triomphe final des idées de justice et de progrès social. Et là, on retrouve Romain Rolland, donc j'ai insisté et reçu ma convocation. Donc ce que cela peut laisser à penser, c'est que Gustave Adore s'est sans doute trouvé peut-être plus gêné que satisfait de cette proposition de collaboration et de justement cette notoriété que Romain Rolland souhaitait mettre au service de la Croix-Rouge. On trouve toutefois une mention dans le premier numéro du bulletin de la guerre qui décrit le travail de l'agence et du service des civils où on signale malgré tout la place de Romain Rolland. N'a-t-on pas vu M. Romain Rolland lui-même s'astreindre des journées entières à déployer la correspondance et à chercher à venir en aide par des conseils et des indications? Quand Romain Rolland obtient le prix Nobel... un autre point alors, sur lequel je vais parler très vite et qui fait vraiment écho avec la communication de Lindsay Cameron. Dans les critiques très fortes de Romain Rolland à l'encontre du comité directeur, revient le fait que le comité a peut-être... je vais vous expliquer sa position à lui. Romain Rolland croyait beaucoup plus dans l'opinion publique, dans la presse, pour témoigner des violations de la Convention de Genève. Et il ne pouvait comprendre que la Croix-Rouge internationale ne faisait pas usage de la presse pour envoyer un camouflet au pays ou aux camps prisonniers qui ne respectaient pas les conventions. Il est vraiment choqué, mais il ne peut comprendre que la Croix-Rouge ne fasse rien. Sans quoi on voit aussi qu'il n'a peut-être pas bien compris non plus les finalités du travail de la Croix-Rouge, qui a une action différente de la sienne. Et bien souvent, là aussi j'ai cité un extrait qui est très révélateur aussi de son ego, hein, il faut bien le dire. Pourquoi ne suis-je pas neutre en ce moment, un Suisse ou un Américain, ce qui lui aurait permis de parler sans critique, n'étant pas un belligérant, si je puis dire. Quel grand rôle a joué et comment vous pourrez le tenir? Je ne permettrai pas un seul acte de violation des engagements internationaux sans le dénoncer publiquement au monde. Je suis convaincue que si la Croix-Rouge internationale signalait officiellement dans les journaux, il fait référence ensuite à une violation de la Convention de Genève, la détention arbitraire des médecins, une semaine ne se passerait pas sans qu'ils fussent relâchés. Quand Rolland est attributeur des prix Nobel, donc il n'est plus en fonction auprès de l'agence, hein, c'est en fin 1916 et c'est même en juin 1917 qu'il reçoit le courrier officiel. C'est toutefois la Croix-Rouge internationale qui décide de faire don, alors non pas de la totalité, comme a pu le dire Stefan Zweig, mais d'une grande partie du montant du prix Nobel, qui est malgré tout très conséquent. Alors là aussi, il faut tempérer. Je pense qu'il y a, je crois que vous l'avez compris, une volonté sincère d'aider la Croix-Rouge, malgré tout, un acte très généreux. Mais aussi, encore une fois, Rolland prend un peu partie de la caution morale que peut lui amener la Croix-Rouge internationale. Rolland, en fait, se sent extrêmement gêné de l'attribution du prix Nobel, car il souhaite avant tout garder sa liberté d'action, sa liberté de parole, et il a peur une nouvelle fois qu'on l'attaque en raison de l'obtention du prix Nobel. Donc il donne l'intégralité de la somme à diverses œuvres de bienfaisance, dont une grande partie à la Croix-Rouge. Mais je pense qu'il faut dire qu'il y a aussi un intérêt derrière cela. Je cite parce que c'est intéressant la lettre qu'il adresse à Gustave Adorf, qui est conservée dans vos archives. La Croix-Rouge internationale a été une des plus pures lumières qui éclairait la nuit de ces tragiques années. Elle a été la consolatrice de millions de malheureux, la gardienne de l'esprit de fraternité dans la souffrance universelle. Elle reste pour des millions d'âmes l'annonciatrice d'un avenir meilleur. Cet extrait me semble intéressant parce qu'il met bien en parallèle les thématiques chères à Rolland, donc la charité avec la consolatrice, le rôle des autorités, la gardienne de l'esprit, la fraternité humaine, donc qu'il a trouvé dans la Croix-Rouge, qui fait partie aussi de ses idées, et la souffrance universelle, là encore, qui fait écho à son engagement universaliste. Et aussi cette volonté, qui était donc le sens de son combat, de préparer un avenir meilleur, de préparer la paix et les lendemains de la guerre. Gustave Adorf, alors il déplore qu'il n'y ait que peu d'écho dans la presse au monde de son don. Alors on a pu dire ce matin qu'il y avait déjà peu d'écho des prix Nobel, mais il y en a peu aussi de son don à la Croix-Rouge. Mais il note toutefois, il note qu'il a eu de très courtoises lettres de remerciement, dont l'une de Gustave Adorf que je cite ici. Il répond très, très gentiment malgré tout à Romain Rolland. C'est distant, mais ça reste poli. On voit que les deux hommes, ça n'a pas été dit, mais n'ont pas eu de grands rapports. Autant il était beaucoup en très bon terme avec Ferrière, il n'avait pas de rapport particulier avec Gustave Adorf. Ce qui est plus étonnant, en revanche, c'est que Romain Rolland ne signale pas lui-même l'obtention du prix Nobel de la paix par la Croix-Rouge internationale en 1917. Donc je n'y ai pas trouvé de mention dans son journal pour cette époque-là. Il n'en parle pas dans les articles qu'il publie à cette époque, alors qu'il parle beaucoup, il parle régulièrement de la Croix-Rouge dans ses premiers articles de guerre. Et au moment où la Croix-Rouge obtient le prix Nobel de la paix, il n'en parle pas. Là encore, la seule trace en tout cas que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres, c'est une lettre là encore au docteur Ferrière, à qui il écrit « Je suis heureux de cet hommage européen. Elle a été l'ange de sa paix en ces affreuses années. L'avenir conservera d'elle un souvenir attendri et pieux. » Ce qui me semble là aussi très révélateur de ce petit extrait, c'est que Rolland parle de la Croix-Rouge au passé, elle a été l'ange de la paix, ou au futur, l'avenir conservera d'elle un souvenir attendri et pieux, alors que nous sommes là encore, la lettre date de décembre 1917, au plein cœur de la guerre, et que le conflit va encore durer. mais on a l'impression, en lisant ce courrier, qu'il est vraiment à ce moment-là très détaché de ce que peut faire la Croix-Rouge et que peut-être son travail à ce moment-là lui semble, son action lui semble peut-être inutile. En tout cas, le travail de la Croix-Rouge au présent n'est pas évoqué. Pour conclure, donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la rencontre entre ces deux grandes figures a peut-être été une rencontre manquée. Concernant Romain Rolland, du moins, donc face à l'image désincarnée d'un intellectuel éloigné des contingences de la guerre au-dessus de la mêlée, la participation de Romain Rolland à l'action de la Croix-Rouge lui a donné chair et cœur par un engagement direct dans le conflit. Une action concrète dont il n'hésite pas à se réclamer, sentant bien quelle force morale, quelle caution humanitaire peut lui donner la Croix-Rouge internationale. Lui-même va devenir, durant le conflit, cette autorité morale qu'il attendait, une voix libre et forte dont le message porte au-dessus des pays en guerre. Une voix contre la haine, porteuse d'avenir et d'un message de réconciliation européenne. La Croix-Rouge internationale, quant à elle, est bien au cœur de la mêlée, mais là où Romain Rolland sans doute l'attendait, au-dessus de la mêlée, n'ayant pas compris peut-être toutes les subtilités de son action, notamment ses tenants diplomatiques. Au final, les deux protagonistes apparaissent malgré tout, malgré leurs dissensions, comme deux figures majeures des mouvements, sinon en faveur de la paix, du moins en faveur de l'humain, et l'attribution à chacun d'eux d'un Nobel au cours du conflit témoigne de cette place capitale dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Voilà, je vous remercie.